l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Lorsqu'on fait une balade nocturne en Corée du Sud, les enseignes lumineuses de différents magasins brillent vivement. Grâce à cela, les rues sont éblouissantes de couleurs et de pictogrammes. Mais ça fait déjà plusieurs années que ces enseignes en désordre ont été au cœur de critiques à bien des égards. Alors, comment y remédier ? D'innombrables enseignes de différentes tailles sont accrochées sur les bâtiments et beaucoup d'entre elles sont devenues vieilles et inutiles. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune sanction légale n'a été mise en œuvre. Face à cela, lundi dernier, le ministère sud-coréen de l'Intérieur de la Sécurité a annoncé qu'il allait lancer le projet de financement pour changer les enseignes visant à redynamiser les zones commerciales locales. Ce projet consiste à remplacer de grands et vieux néons lumineux par d'autres qui s'intègrent bien aux spécialités locales. En tant qu'administration locale cible, un total de 19 villes de Séoul et de la province de Gyeonggi ont été sélectionnées. Ce programme aura lieu d'ici décembre 2023 et un marchement de 250 millions de won sera fourni aux villes désignées. Le montant total du financement est fixé à 4 milliards de won, soit 3 millions d'euros. En effet, ce projet est promu depuis 2012 et est soutenu par plus de 250 administrations locales à ce jour. En particulier, en 2019, plus de la moitié des enseignes usées autour de la plage de Haeundae à Busan ont été remplacées par de nouvelles. Par ailleurs, le ministère véhicule le programme en lien avec celui de régénération urbaine et d'installation des réseaux enterrés pour créer des rues agréables. En outre, avec le Centre national de la publicité extérieure, le ministère prévoit d'évaluer les dispositions réalisées au cours des 10 dernières années et de proposer un plan de gestion durable. Selon le chef du bureau de l'autonomie locale, le projet de remplacement des enseignes contribue à améliorer l'esthétique de la ville et à revitaliser les zones commerciales stagnantes. De plus, la sécurité des résidents a été nettement améliorée. À l'instar du modèle français Vélib, le vélo en libre service séoulien, Tarengi a vu le jour en 2015. Baptisé par l'onomatopée de la sonnette du vélo Tareng Tareng, le vélo attire toujours les citoyens de Séoul depuis le lancement de ce service. Les Séouliens profitent ainsi des pistes cyclables, surtout s'élongeant le fleuve Han sur les bicyclettes de la ville, mises à disposition à des tarifs attractifs. Mais derrière son succès, il y a un déficit d'exploitation de 10 milliards de won, soit 7,5 millions d'euros, mais aussi un mauvais traitement des travailleurs. Tarengi peut-il survivre ? Le vélo séoulien est utilisé par un citoyen sur trois et son nombre d'unités augmente donc de milliers chaque année. Malgré cela, le nombre de travailleurs n'a jamais été proportionnel au nombre de vélos et leurs conditions de travail ne cessent de se dégrader. Ils se battent donc devant les tribunaux depuis plus de 2 ans pour garantir un salaire raisonnable. Du remplissage des bouteilles de gel hydroalcoolique installées aux stations à l'élimination des déchets, un travailleur parcourt en moyenne 25 km pour également trouver les tarengi abandonnés le matin. Afin d'améliorer les conditions de travail et d'optimiser ses coûts d'exploitation, la ville de Séoul a décidé de mettre des publicités privées à partir de la fin de cette année. Elles seront simplifiées sous forme de typographie pour se situer sur le côté droit du logo du vélo. D'ailleurs, la portée des publicités va être minimisée en tenant compte de la sécurité des utilisateurs et de l'esthétique de la ville. Une association civile souligne qu'un soutien budgétaire plus considérable est nécessaire pour le fonctionnement de la mobilité publique. En réponse, l'administration métropolitaine a assuré qu'elle envisageait des moyens d'améliorer les conditions de travail et le budget sous différents angles. Eh bien, c'est le moment de prendre une petite pause musicale. Nous vous proposons d'écouter un morceau parfaitement dans le thème. Voici Lide ou Ballade interprétée par Sol.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez C'est le jour du mardi 26 juillet en compagnie de Yi Chang-hyun. Le tteokbokki est l'un des mets représentatifs de la Corée du Sud et tout le monde en raffole. Né dans les années 1950 dans le quartier de Sindang à Séoul, ce plat peu cher évoque la nostalgie des étudiants sud-coréens à manger dans une petite cargotte aux alentours de l'école. Le tteokbokki est une spécialité à base de karaetteok, un gâteau de riz de forme cylindrique. Plusieurs karaetteok sont cuits dans une sauce rouge piquante avec d'autres ingrédients comme des gâteaux de poisson ou hamok, des œufs durs ou encore du poireau. De nombreuses variantes existent, à la sauce soja, à la sauce curry avec des ramen et du fromage. Au premier rang depuis longtemps dans la liste des aliments de prédilection, surtout chez les collégiens et lycéens, il a récemment cédé sa place à un autre aliment. D'après de récents sondages réalisés par une société de cartes crédit, c'est maintenant l'âge d'or de la soupe mara, dit maratang en coréen. C'est un plat de soupe originaire du Sichuan en Chine. On met de la bandiane chinoise, du clou de girofle, du fenouil sauté au wok pour faire de l'huile aromatisée. Puis on verse le bouillon avec de la poudre de piment rouge. Ensuite, on y ajoute des légumes, de la viande, des nouilles, du tofu ou des boulettes de poisson à volonté et on mijote le tout. Cette cuisine n'était pas très connue au pays du matin clair, mais depuis les années 2010, les restaurants spécialisés pour les étudiants internationaux ont fortement augmenté. À la suite d'une analyse de la propension à consommer des étudiants sud-coréens sur la base des données de ces dernières années, les jeunes étudiantes préfèrent aller au café, au restaurant chinois, à ceux de tteokbokki et de burgers. Quant aux garçons, ils fréquentent plus souvent les restaurants de burgers, ensuite les cafés, les restaurants coréens et ceux de poulet frit. Ainsi, par sexe, la préférence concernant la restauration hors domicile est bien différente. Selon l'entreprise, ces jeunes, immergés depuis petit dans le monde numérique, privilégient davantage, voire toujours, le paiement mobile. Et le taux de commande de livraison est aussi monté en flèche à cause de la pandémie. Ainsi, la passion pour la nourriture évolue avec le temps. Récemment, un témoignage à propos d'un spectateur gourmand lors de la projection du film Decision to Live s'est répandu sur Twitter. Récompensé à Cannes il y a 2 mois par le prix de la mise en scène, la 11e œuvre du cinéaste Park Chan-wook est de nouveau sur la voie du succès en Corée du Sud. Pour ceux qui ont vu ce polar romantique, il y a une scène où les deux protagonistes Seol-hae et Hae-jun mangent des sushis raffinés. Selon le tweet, le spectateur atypique a apporté une boîte de sushis. Et lorsque la scène est apparue à l'écran, il a ouvert le couvercle et s'est mis à manger. Ce tweet a été retweeté pas moins de 20 000 fois et a fait ressortir diverses expériences similaires d'utilisateurs de ce réseau social. Voici leur témoignage. J'ai apporté des frites et de l'eau à la salle pour revoir seul sur Mars. J'étais obligée de prendre la barre protéinée aux haricots rouges pour m'immerger dans le transpersonnage. Moi aussi, j'ai pris du thé noir et du pain de mie à la confiture à la salle du film Dunkerque. Ainsi, pas mal de Sud-Coréens aiment copier les scènes de films pour être synchro avec les personnages. Ces gens passionnants sont appelés spectateurs dans la méthode, comme si un comédien reproduit parfaitement un personnage avec une technique de jeu hyper réaliste connue sous le nom de méthode. Un exemple typique est donc d'apporter la nourriture symbolique d'un film au cinéma et de manger avec le comédien par écran interposé. Les utilisateurs de Twitter le considèrent comme un véritable cinéma 4DX créé par le public lui-même. Pour les spectateurs dans la méthode, les films ne se limitent pas à l'art du temps qui plaît seulement aux yeux, aux charmes, les oreilles. Ils veulent s'immerger plus profondément à travers tous leurs sens. Le critique de cinéma Chang Ji-hyuk a expliqué qu'il s'agissait d'une manière plus active et amusante d'intervenir dans un film. Il a ensuite recommandé de chanter en groupe tout en regardant le film Elvis. Eh bien, c'est encore le moment de prendre une petite pause musicale avec cette fois-ci une chanson de Psy intitulée « C'est de l'art » ou « Yesuria ». Il joue comme un robot. Cela se dit souvent en Corée du Sud lorsqu'un comédien joue si mal dans un film ou une série. Alors dans ce cas, comment joue un acteur IA un véritable robot donc ? En effet, les acteurs virtuels dotés de l'intelligence artificielle figurent de plus en plus souvent dans les médias ou plateformes en ligne telles qu'Instagram et des photos publicitaires qui n'exigent pas de mouvement. Même s'il s'agit d'une vidéo, ces stars de demain apparaissent principalement dans des vidéoclips où ils dansent sans réplique. Mais de tels humains IA entrent désormais en scène dans des séries. Ils entrent ainsi dans le domaine du jeu d'acteur qui transmet des émotions à travers des répliques. Chae-in, membre du groupe de filles virtuelles Eternity, a fait ses débuts en tant que comédienne dans une série web en 4 parties. C'est la première fois que l'intelligence artificielle a assumé un vrai rôle. Dans la série, elle a incarné le personnage d'une influenceuse qui jouit d'une immense popularité sur les réseaux sociaux. Elle échange avec d'autres personnages et a même tourné la scène du baiser comme un humain. En effet, la technologie Deep Real créée par son agence lui a donné naissance. Grâce à ça, la comédienne IA a pris 20 ans de données telles que les expressions faciales, les mouvements de la bouche et les gestes des vedettes sud-coréennes. Mais à 21, une autre star IA a fait une brève apparition dans une série. Il s'agit de Rosie, qui est la première influenceuse virtuelle sud-coréenne. Âgée de 22 ans, elle a été conçue en rassemblant les visages préparés des milléniaux et des membres de la génération Z. Comme Jane et Rosie, les stars IA ont en fait signé des contrats avec les agences auxquelles appartiennent des acteurs locaux célèbres. Pourquoi ces humains virtuels deviennent-ils populaires dans le domaine artistique? Selon les initiés de l'industrie, cela permet d'économiser beaucoup d'argent et de temps plutôt que de faire des castings avec de vrais acteurs. Pour cette raison, ces dernières années, le recours à l'intelligence artificielle pour des contenus longs tels que la narration diffusée et le téléachat sont en forte augmentation. L'intelligence artificielle s'immisce déjà dans notre vie à notre insu. Et en Corée du Sud, comme ailleurs, de nombreuses entreprises l'adoptent dans plusieurs domaines, comme notamment lors d'entretiens d'embauche. Cependant, pour complètement remplacer un véritable entretien classique, c'est encore peu fiable. Récemment, le ministère sud-coréen de l'Emploi et du Travail a annoncé le résultat d'une récente enquête sur le recrutement des jeunes. Elle a été menée de mars à mai dernier auprès des responsables des RH de 1650 grandes et moyennes entreprises. Parmi ces firmes, seulement 7% ont mené des entretiens en utilisant l'intelligence artificielle. La plupart d'entre eux ont déclaré passer des entretiens supplémentaires en face à face. Selon un responsable du recrutement, l'entretien par machine a un effet positif en termes d'équité du processus et d'efficacité. En revanche, la précision au niveau de l'évaluation est toujours médiocre. En effet, selon la moitié des entreprises qui l'exploitent, le résultat des entretiens virtuels ne détermine pas forcément le résultat d'embauche. Au milieu de ce rétrécissement des opportunités d'emploi, une annonce de poste a récemment fait l'objet de vives critiques. Elle a en fait affiché une condition discriminatoire. En effet, seules certaines personnes possédant un type de MBTI précis seraient embauchées. MBTI est un test d'évaluation psychologique déterminant le type d'un individu parmi 16 types différents. Comme cela fait le buzz chez les jeunes sud-coréens depuis peu, ils se préoccupent de l'utilisation du test sur le marché du travail. Mais contrairement aux inquiétudes, très peu d'entreprises se réfèrent à ce résultat dans le processus d'embauche. Seuls 3% ont déclaré se renseigner sur les conclusions du test MBTI. D'après un expert, si cette évaluation psychologique a été utilisée comme un outil de recrutement, les candidats n'auraient d'autre choix que de faire preuve d'un manque de sincérité, comme donner une réponse adaptée au goût d'une entreprise. En toute logique, le facteur le plus important à examiner lors d'une sélection de lettres de motivation et d'entretien est l'expérience liée à l'emploi. Vient ensuite la pertinence professionnelle dans le domaine et le parcours universitaire. Chaque individu dispose de ses propres goûts et couleurs. Avant de retrouver Hwang Hee-yeon pour Au savoir du terroir, nous vous proposons d'écouter la chanson de Stella Jang intitulée Colors ou Couleurs.
Cette semaine, Saveur des terroirs part dans le comté de Hamyang, de la province de Gyeongsang du Sud. Cette zone se caractérise notamment par ses beaux paysages naturels qui diffèrent d'une saison à l'autre. Grâce aux chaînes de montagnes et aux eaux limpides, les habitants profitent d'une vie agréable, respectueuse de l'environnement. Nous allons rencontrer des gens qui ont lancé le deuxième chapitre de leur vie et découvrir les différents plats qu'ils nous proposent. Dans le comté de Hamyang, nous visitons aujourd'hui Yurimmyeon pour rencontrer deux différentes familles. Tout d'abord, nous sommes accueillis par les sœurs Kim qui s'y sont installées il y a quelques années. Après avoir suivi des cours pour devenir agriculteurs, les deux femmes d'une vingtaine d'années ont décidé de se lancer dans cette aventure éloignée des zones urbaines. Leur mère a encouragé la décision ambitieuse de ces deux filles et les a accompagnées. Chaque matin, elles apprennent à manipuler les outils et les machines agricoles et dans l'après-midi, elles travaillent dans les champs pour cultiver divers produits. Ce n'est pas un travail facile, mais selon les jeunes agricultrices, elles sont satisfaites de ce défi qui leur fait penser sur la manière de vivre lentement. Les jeunes qui s'intéressent également à la cuisine mettent en pratique les différentes recettes qu'elles ont apprises des voisins et partagent divers plats avec eux. Durant la période des grands travaux agricoles, elle prépare souvent le makgeolli de Jisuyuk. Cette étouffée de porc que les Coréens consomment souvent devient plus succulente grâce aux astuces particulières. Tout d'abord, on fait sauter à l'huile la poitrine de porc pour permettre à la viande de bien conserver le jus qui est déterminant pour la saveur du plat. Ensuite, on la fait cuire dans le makgeolli, l'alcool traditionnel laiteux à base de riz, à la place de l'eau bouillante. On y ajoute bien sûr du poivre et des feuilles de laurier censées dégager l'odeur particulière du porc. Enfin, on fait mijoter la viande dans la sauce soja. Ce souyou, accompagné de choux marinés de manière aigre et douce, est un plat fortifiant qui redonne de l'énergie aux agriculteurs. Avec le sanyangsam, une sorte de ginseng sauvage et la feuille de tuicélage offerte par leurs voisins, elle prépare le sanyangsam boi sampap. Dans du riz cuit à la vapeur, on ajoute le ginseng coupé en petits morceaux depuis les racines jusqu'aux feuilles et l'enroule avec une feuille de tuicélage. On accompagne cet enroulé riche en éléments nutritifs au barbecue coréen, bulgogi. Cela devient un casse-croûte que l'on peut consommer rapidement dans les champs. En partageant ces plats avec leurs voisins qui sont devenus leurs prédécesseurs dans le milieu agricole, les sœurs Kim reprennent du courage pour devenir des agricultrices professionnelles. Monsieur Yu et Madame Kim, qui ont vécu près d'une quinzaine d'années en Inde, sont venus vivre dans ce village il y a 5 ans. Appuyés par les villageois, ils gèrent ici un grand champ d'oignons. Pour le couple d'âge mûr, il a pu s'intégrer dans le nouvel environnement, notamment grâce aux voisins qui l'ont accueilli tel un membre de la famille et l'ont accompagné durant tout le processus d'installation. En vue d'exprimer leur remerciement à ces derniers, Madame Kim a décidé de les inviter à un déjeuner. Le tteoji deungbyeotang, le ragoût pimenté à base d'échine de porc, est le plat fortifiant le plus prisé en cette période de l'année. On y ajoute bien sûr les oignons mâles qui rendent la saveur du bouillon bien douce, les fougères arborescentes et les feuilles de navet séché shiregi, cueillies dans le potager. En guise de reconnaissance, les voisins préparent le kimchi à l'oignon en le garnissant de feuilles de chopi, une sorte de poivre oriental qui est utilisé comme condiment indispensable dans la cuisine locale. Notre voyage culinaire à la recherche des plats du pays du matin clair se poursuit la semaine prochaine.
Ainsi se termine notre émission de C'est le jour le jour. C'était Lee Jung-hyun au micro avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une très bonne soirée.